Pluriel Gay, une émission présentée par Gérald.
Hihihi, et Lolo. Bon, Gérald, il va arriver dans quelques secondes. Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous, bonsoir Boris.
Bonsoir.
Boris, tu es seul ce soir ?
Oui, je suis tout seul et je suis bien arrivé à monter là, le premier bouton, mais je ne sais pas si je vais tenir. Je suis abandonné, Bernardo est malade,
oh,
on l'embrasse.
Chou, on lui fait des grosses bisettes.
Bah oui.
Mais ça va, tu vas t'en sortir.
Bah j'espère.
On te fait confiance.
Merci.
Ce soir, nous avons comme invité Monsieur Olivier Borel.
Bonsoir.
Alors, chargé de communication pour la LGP.
C'est ça.
LGP, on redit ce que ça veut dire ?
Lesbian and Gay Pride.
Voilà. Donc en gros, l'association qui se charge d'organiser la Marche des Fiertés.
Entre autres.
Pas que. Et donc ce soir, on vous remercie d'être avec nous. Vous allez parler de plein de choses ce soir, de la future Marche des Fiertés qui est en train de s'organiser. On peut parler des prochaines élections aussi du bureau de la LGP.
Oui, après.
Parce qu'il y a des petites choses qui sont en train de changer, normalement.
Il y aura peut-être des changements, mais...
Peut-être.
On verra ce qui se passera à l'Assemblée Générale le 12 mars.
Le 12 mars, ok. On pourrait parler aussi... Bon, il y a plein de choses, forcément, parce que la LGP, vous êtes quand même inscrit dans le milieu associatif lyonnais de manière très forte. Depuis combien de temps, l'LGP ?
Eh ben, depuis un peu plus de 15 ans, puisque l'an passé, on a fêté la 15e marche.
Exact.
Donc, oui, ça fait un peu plus de 15 ans maintenant.
Et vous y êtes depuis le début ?
Non, moi, j'y suis. J'ai rejoint la LGP, je dirais 2004. Ça fait quand même un peu plus de 10 ans.
Ça fait quand même pas mal de temps, oui. Donc, association ancrée dans la vie lyonnaise, en règle générale, pas seulement dans le milieu associatif, pour défendre les droits des lesbiennes, des gays, des bi, des trans,
tout à fait.
Intersexes, queer, etc., etc.
Oui, et puis la LGP, on a une conviction aussi, c'est que la lutte contre les discriminations, elle ne doit pas se segmenter et que on peut aller aussi au-delà, à défendre un certain nombre de causes. D'ailleurs, au conseil d'administration de la Lesbian and Gay Pride, on a des associations plus généralistes comme la Ligue des droits de l'homme ou SOS Racisme qui sont présents depuis déjà de nombreuses années. On a aussi des syndicats comme la CGT, la FSU. On a des partis politiques comme Solidaires, on a eu les Jeunes communistes pendant une période, on a HES, Homosexualité et Socialisme. Donc voilà, on réunit au-delà de la sphère purement LGBT aussi des structures politiques, syndicales et de défense des droits humains d'une manière générale. Donc on est amené effectivement aussi à accompagner un certain nombre de combats qui ne sont pas forcément directement LGBT, mais qui pour nous sont importants parce que ça fait partie d'un tout et d'un projet de société égalitaire. Et donc, sur toutes ces questions, effectivement, on s'engage. C'était d'ailleurs le cadre de la campagne qu'on a menée au moment des élections régionales avec SOS Racisme, avec un certain nombre d'associations, d'éclats également, autour des élections régionales.
D'accord. Alors, excusez-nous, chers auditeurs, il y a une tornade blanche qui est rentrée dans le studio.
Pourquoi blanche ?
Gérald est là.
J'ai pas tant de cheveux blancs que ça, quand même.
Je parlais de la couleur de ta peau. Voyons,
ah oui,
pas de tes cheveux.
Tu ne trouves pas lichon, c'est ça ?
Non, mais on va dire que tu es blanc, tu fais partie des gens blancs, Gérald.
Oui, c'est vrai.
Voilà, donc voilà. Tornade blanche.
D'accord, j'accepte.
Qui arrive rentrée en trombe.
Ben oui, parce que en fait, c'était un peu tout à l'arrache.
Ah, d'accord.
Ce soir, pour le début de l'émission. D'abord, Bernard est malade.
Ah oui, ben oui, on l'a dit.
Donc Boris est en direct tout seul là-bas, à la régie.
En roue libre.
En roue libre, voilà. en tout cas, merci Olivier d'être ici. Donc vous avez fait les présentations.
Oui.
C'est bon.
Oui,
vous avez commencé à parler de quoi ?
Pas grand-chose pour l'instant.
Ouais.
Olivier a présenté la LGP, le but de la LGP, ses actions, ses combats.
Jusque-là, on avait souvent Edwige Marty, qui était présidente. mais qui n'est plus présidente.
Elle est toujours présidente parce qu'on n'a pas encore fait notre assemblée générale, qui est le 12 mars.
Ah oui, mais elle avait manifesté sa volonté de se retirer.
C'était effectivement ce qu'elle avait annoncé lors de la dernière assemblée générale.
Elle
avait,
donc là, elle ne va pas se représenter normalement.
Normalement, en tout cas, sauf si elle a changé d'idée depuis, hein, c'est possible aussi. Hein,
ouais. On ne sait pas.
On ne sait pas, mais a priori non, effectivement. A priori, c'était sa dernière année, donc elle a effectivement. C'est d'ailleurs pour ça qu'aussi l'assemblée générale est un petit peu tard. Des obligations à la fois familiales et professionnelles qui font qu'elle est moins disponible et que du coup effectivement c'est aussi se concentrer aussi sur sa vie personnelle et que bon ça restera militante à la LGP, ça il n'y a pas de pas de doute sur le sujet.
Après on peut lui faire confiance.
moins active en tout cas en tant que présidente.
Ouais. Alors ça veut dire qu'à l'heure actuelle la composition de la LGP reste la même au niveau du bureau, comment c'est réparti?
Pour l'instant ça n'a pas changé, on verra le 12 mars
qui est secrétaire, c'est David le secrétaire?
David est secrétaire. Moi, je suis chargé de communication. Loïc, notre trésorier, et Edwige, notre présidente. Voilà. Il y avait également, pas oublier Camille, qui était vice-présidente.
Oui. Voilà. Et l'Assemblée générale, c'est quand alors?
Donc le 12 mars.
Le 12 mars.
Voilà.
Bien. On l'a dit tout à l'heure, mais t'étais où?
Ben oui, j'étais pas là, c'est vrai. J'étais en train de fouiller dans ma voiture à la recherche de mon ordinateur. Donc,
est-ce qu'on sait qui va se présenter à la présidence?
Non, pas l'avance.
Est-ce qu'il y a des choses... un petit peu à nous raconter sur la LGP?
Non, je pense qu'on verra un petit peu. Alors, nous, on est un petit peu préparé à l'avance, donc... Moi, il n'est pas impossible que je me présente à la présidence. Mais voilà, après, on verra en fonction de ce qu'il y a. L'idée, c'est de toute façon, globalement, l'équipe ne va pas être énormément changée. Après, si on peut avoir des nouvelles personnes qui viennent aussi pour aider, parce que, comme on disait, moi, ça fait un peu plus de 10 ans que je suis là, même si je n'ai jamais été président, mais j'ai toujours été... Enfin, ça fait presque 10 ans, un peu plus de 10 ans que je suis dans le bureau, donc j'ai aussi envie, des fois, de passer à autre chose, mais voilà, il faut aussi des gens, et on est heureux d'avoir reçu au conseil d'administration un certain nombre de personnes nouvelles cette année.
Ouais.
Après, maintenant, ce serait bien qu'il y en ait d'autres qui arrivent aussi, que ce soit au conseil d'administration ou au bureau, parce qu'effectivement, il faut aussi renouveler un petit peu les équipes, amener de nouvelles idées. C'est comme ça aussi qu'on fait avancer et qu'on fait bouger une association, et chacun a des choses à apporter. Et effectivement, c'est pas bon non plus que les mêmes personnes restent 20 ans à la tête d'une structure. Voilà.
Oui, c'est sûr que dans une association a besoin de renouvellement.
Bien sûr, toute structure.
D'autant plus que la LGP organise une de ses tâches principales, je dirais, mais c'est pas la seule. On a parlé de militantisme, c'est tout au long de l'année, mais... Une des tâches principales, je dirais, c'est l'organisation de la marche des fiertés. Et depuis 20 ans, la LGP l'organise à Lyon. L'année dernière, d'ailleurs, l'an dernier, on l'a vu, c'était, on s'en souvient.
Oui, c'était 20 ans. Je disais 15 ans tout à l'heure, mais je suis à côté de la plaque, c'était les 20 ans, tout à fait.
Voilà, il veut se rajeunir, c'est pour ça.
C'est ça.
Les 20 ans. Les 20 ans, c'était l'année dernière. Justement, alors, bon, nous, on a des tas de questions à te poser, Olivier, évidemment, en tant que LGP, évidemment. On t'a eu au téléphone il n'y a pas longtemps, donc on se souvient que c'était avant les élections régionales. C'était à peu près, un mois avant. C'était à l'occasion donc, d'un meeting qui avait été organisé par la Manif pour tous, nos amis de la Manif pour tous, nous ne les saluons pas. Donc, ils avaient invité les candidats aux élections régionales. C'était présenté comme candidat à ce meeting. Donc, il y avait eu le candidat du FN, il y avait eu le candidat aussi du parti politique de Dupont-Aignan, qui s'appelle Debout la France.
La France, qui a changé de nom, c'était Debout la République.
Debout la France. Maintenant, c'est devenu Debout la France. Il me semblait bien qu'il y avait un petit changement.
Mais oui.
Et puis, évidemment, notre ami Laurent Wauquiez qui était là. Alors, vous aviez organisé, on s'en souvient, un petit happening de réception.
Voilà, tout à fait. On voulait un petit peu marquer le coup de manière humoristique, mais en même temps, qui, à mon avis, était quand même le message, enfin, la réalité du message quand on voyait la campagne de Laurent Wauquiez, de célébrer le mariage homophobe de Laurent Wauquiez et Christophe Boudot, parce qu'effectivement.
Qui était le candidat FN.
Qui était le candidat FN, quand on regarde. Quand on regardait le programme de Laurent Wauquiez et quand on comparait avec celui du Front National, on voyait quand même. plus que quelques similitudes. D'ailleurs, j'ai même le souvenir, on n'en a pas parlé parce que c'est arrivé un petit peu après, c'était entre les deux tours, un tract de campagne qui était fait par Philippe Meunier, signé par Laurent Wauquiez, qui était quasiment un copier-coller de ce que proposait le Front National. D'ailleurs, un certain nombre de journalistes en ont fait la remarque en disant « Mais effectivement, on a l'impression vraiment d'avoir un tract du Front National. »
Vous aviez effectivement à l'époque tiré la sonnette d'alarme. Vous avez effectivement fait une campagne assez active concernant le candidat Wauquiez et le fameux tract que tu évoquais.
Et toutes les prises de position, il n'y avait pas que Laurent Wauquiez, il y avait aussi tous les candidats... Enfin, un certain nombre de candidats sur ces listes de Laurent Wauquiez qui étaient quand même particulièrement gratinés. Je pense en particulier à Anne Lorne, qui était justement une des leaders de la Manif pour tous, qui s'était prononcée pour l'instauration du mariage religieux comme seul mariage reconnu par l'État. Pour son petit problème dans un état laïque, quand même, qui se félicitait quand le maire Front National d'Hénin-Beaumont avait mis à la porte la Ligue des droits de l'homme, qui avait annoncé également que le jour où elle serait élue, les premières subventions qu'elle supprimerait, c'est celle des SOS Racisme et des associations LGBT. Enfin voilà, un certain nombre de prises de position, bon, il n'y avait pas qu'elle, hein, on avait trouvé aussi. Le fameux Brice Hortefeux, le ministre de l'immigration et de l'identité nationale, condamné pour ses propos racistes sur les soi-disant Auvergnats. Quand il y en a un, ça va, quand il y en a plusieurs, ça pose problème. Seul ministre qui a d'ailleurs eu aussi une directive a été annulée par le Conseil d'État pour racisme, justement, contre les Roms. Voilà, ça faisait partie de ces personnages quand même. Étienne Blanc, qui était déjà vice-président au moment où Charles Millon a été élu avec les voix du Front National. Ça, c'est l'équipe de Étienne Blanc, c'est le numéro 2 de la région Rhône-Alpes. Étienne Blanc, c'est le numéro 2 aujourd'hui de la région Rhône-Alpes. C'est-à-dire que si Laurent Wauquiez n'est pas là, c'est lui qui gère la région. Enfin, voilà.
D'accord. C'est lui qui s'occupe de la maison quand Laurent n'est pas là.
On sait que Laurent est souvent à Paris, même s'il n'est pas souvent à l'Assemblée nationale.
Mais où est-il alors?
Chez les Républicains, dans les médias, on le voit beaucoup à la télévision, on le voit beaucoup moins à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, sur les derniers votes, là, en ce moment, sur les débats sur le projet de loi constitutionnelle, on ne l'a pas beaucoup vu voter à l'Assemblée nationale sur ces questions.
Donc, vous aviez de bonnes raisons d'être inquiet, vous à la LGP, puis d'autres associations LGBT. Et puis patatras, donc, on l'a bien compris, Laurent Wauquiez, suite du deuxième tour des élections, a été élu à la tête de la quand même deuxième région de France, économiquement et démographiquement parlant. Donc voilà, Laurent Wauquiez à tête de la région depuis un mois. Donc je suppose que la LGP, là, maintenant, est sur le qui-vive, en fait, à l'affût tout dérapage.
Déjà, on a regardé un petit peu la composition de son exécutif et on voit que la grande délégation à la lutte contre les discriminations disparaît totalement de l'exécutif. Donc il n'y avait plus personne qui s'occupe des discriminations à la région en Alpes, alors qu'il y avait eu quand même tout un travail qui avait été fait par l'équipe de Jean-Jacques Kerran. Et notamment l'initiative de Katia Philippe, que j'aimerais saluer ici, puisque c'était lors du premier mandat de Jean-Jacques Kerran. Elle était à l'époque vice-présidente en charge, elle n'était pas vice-présidente d'ailleurs, elle était conseillère régionale déléguée à la jeunesse. Et lors de ses premières foulées en tant que conseillère régionale déléguée, elle avait organisé des assises régionales de la jeunesse. Elle avait discuté avec les jeunes pour savoir quelles étaient leurs problématiques, qu'est-ce que la région pouvait faire pour eux. Et la première problématique qui était venue, c'était les discriminations. Donc, on subissait beaucoup de discriminations. Et donc, du coup, c'est elle qui a initié, elle a divisé son budget en deux sur la lutte contre les discriminations et le programme jeunesse. Et donc, c'est vraiment elle qui a été à l'initiative de la région sur la lutte contre les discriminations. Il y a eu une charte contre les discriminations qui a été coécrite avec les associations, avec les jeunes et avec la région, qui est ensuite intégrée dans tout le programme que faisait la région. Il y a eu une délégation qui a été créée dans le deuxième mandat, qui a été dirigée par Farida Boudaoud sur l'ensemble du mandat. Il y avait un appel à projet, lutte contre les discriminations, avec un jury composé d'associations spécialistes. Il y avait notamment la LICRA, SOS Racisme, Arcade et d'autres qui étaient là pour valider les dossiers de subvention et accompagner les associations qui voulaient s'engager dans la lutte contre les discriminations. Donc il y avait vraiment un vrai travail qui a été fait pendant les deux mandats de Jean-Jacques Kerran sur cette question. Bah, là, en tout cas, cette délégation disparaît.
C'est sûr, ça, c'est
programmé. Il n'y a pas de vice-président en charge des discriminations. Il n'y a pas de commission lutte contre les discriminations à la région Rhône-Alpes version Laurent Wauquiez. Donc, laisse... Enfin, en tout cas, nous, ça faisait partie de nos inquiétudes. On voit qu'effectivement, en tout cas, ça ne fait pas partie des priorités de Laurent Wauquiez sur la région. Il préfère aller installer des portiques dans les lycées, sans se préoccuper d'ailleurs des conditions de sécurité des élèves qui devront stationner devant les lycées pendant une heure, deux heures pour pouvoir rentrer. Avec... Ouais. Enfin,
c'est un peu une posture, ça sera, à mon avis, c'est pas encore demain la veille qu'on verra les portiques, mais...
D'autant qu'il faut l'accord des conseils d'administration, je suis pas sûr que l'ensemble des conseils d'administration des 320 lycées de la région Rhône-Alpes-Auvergne voudront avoir des portiques de sécurité.
Mais enfin bon, Laurent Wauquiez envoie plein de messages, en tout cas, le positionne très nettement d'une façon très droitière, on dira, très à droite. Voilà. Alors moi, je dis pourquoi on le proposerait... Bon, on rigolait la semaine dernière, on l'avait dit, on devrait l'inviter à l'émission.
Non, on rigolait pas.
On rigolait pas, oui, mais il acceptera jamais. Mais non, on pourrait essayer. Mais pourquoi la LGP pourrait l'inviter à une table ronde, à une soirée festive, par exemple,
pour détendre
l'ambiance.
Une soirée festive.
Mais nous, on l'avait invité, parce que comme il était allé à la manif pour tous...
Une soirée cuir, par exemple. Non, il viendra peut-être, hein, même certainement, je pense.
Mais nous, on l'avait invité à débattre des questions régionales. On avait fait un grand débat où on avait invité toutes les têtes de liste. Malheureusement, il n'y a que les têtes de liste de la gauche qui étaient venues, Parti communiste, Les Verts et Parti socialiste. On n'a pas eu le plaisir de voir M. Wauquiez qui n'a pas trouvé un seul colistier à envoyer un truc, alors qu'il avait pu se déplacer à la manif pour tous. On a vu l'état de ses priorités sur ces questions-là.
Alors, justement, on est à une époque, on vit une époque extraordinaire, ma petite Lolo.
Une époque formidable.
Une époque formidable, où c'est vrai, on a tendance à penser, mais c'est vrai que les faits aussi nous incitent à penser ainsi, que gauche, droite, ça s'entremêle un petit peu, on ne sait plus trop ce qu'est la gauche maintenant, il faudrait retrouver une nouvelle définition, parfois, se demande-t-on, des idées de gauche, parce qu'on ne comprend pas trop, notamment avec le gouvernement actuel. Et moi, je voulais te demander, Olivier, par exemple, on va prendre le cas de Jacques Toubon. Jacques Toubon, c'est quand même un cas d'école parce que finalement, il a été contre toute l'ouverture des droits aux LGBT depuis le début. Dès le départ.
Depuis 81.
Voilà, depuis 81, il est contre. Il a fait les grands effets de manche.
Depuis 81, il est contre.
Ah voilà. Il a fait les grands effets de manche à l'Assemblée, on s'en souvient aussi pour le Pax, en disant que la France devait au contraire favoriser les mariages hétérosexuels pour développer la démographie du pays, etc. etc. Bon. Et enfin, il a fait de grands discours là-dessus.
Donc les femmes fassent plus de 2,3 enfants. Voilà.
Exactement. Bah voilà, maintenant qu'il est défenseur des droits, il a quand même été proposé par François Hollande. J'allais dire François Mitterrand, non, c'est pas François Hollande.
Rien à voir.
François Hollande, donc en fait, qui l'a proposé, ça a été une surprise un petit peu, et puis il s'est avéré que.
Et il y a eu un mouvement de défiance, hein, et on était les premiers d'ailleurs, on n'était pas parmi les derniers à s'inquiéter de cette nomination, pour toutes les raisons que tu viens d'évoquer. Et bah là, force est de constater qu'il est assis. Pour moi, aujourd'hui, il réalise plutôt un sans faute en tant que défenseur des droits.
Voilà, parce qu'en tant que défenseur des droits, tout par à coup, il a dit la loi, il a même critiqué la loi mariage pour tout, mais dans le sens, elle va pas assez loin. Finalement, elle crée des inégalités. Pourquoi la PMA n'a pas été incluse dedans, etc.
Et pourquoi il défend les enfants nés de GPA également.
Mais c'est absolument incroyable.
Mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie?
Que s'est-il passé? Est-ce que quelqu'un a lancé un sort?
Après, lui-même avait amené une explication au moment où justement il y avait tout un tas de critiques sur sa nomination en tant que défenseur des droits, où il avait expliqué. Alors, à l'époque, j'y croyais pas plus que ça, et maintenant, je serais plutôt tendance à penser qu'il était sincère au moment où il avait fait cette déclaration, que d'une part, il avait un petit peu changé. En vieillissant, on peut aussi changer un petit peu.
On peut évoluer, on a le droit de changer d'avis.
Et d'autre part, n'étant plus dans le jeu politique, et je pense que c'est ça la raison principale, n'étant plus dans le jeu politique, il avait pu prendre des postures politique au moment où il avait des responsabilités, sans que ce soit pour autant ses convictions profondes, et puis qu'à un moment donné, il incarne aujourd'hui le défenseur des droits, et que à un moment, on doit s'attacher à la tâche qui nous est dévolue, et que quelque part, peut-être aussi ses convictions, il les met un petit peu de côté aussi, en tant que défenseur des droits, pour jouer son rôle de défenseur des droits. C'est possible aussi.
Donc,
en tout cas, sa prise de position, en tout cas, c'est... enfin, ils ne sont pas critiquables. Aujourd'hui, ouais. Moi, je ne vois pas de position qu'il a tenue en tant que défenseur des droits qui soit critiquable.
Mais ce qui est inquiétant dans ce que tu dis, oui, finalement, c'est que la politique ne serait qu'une posture et ne serait pas, parfois, la conviction intime des personnes.
Je pense qu'il y a beaucoup de politiques, malheureusement, aujourd'hui, qui sont plus dans la posture que vraiment dans la défense de conviction. D'ailleurs, enfin, malheureusement, on en a l'illustration avec ce président qui fait tout un tas d'annonces au moment où il était candidat. Alors, il a avancé sur un certain nombre de sujets, notamment le mariage pour tous. On va pas lui enlever un certain nombre de choses qui ont été faites, qui étaient des engagements qu'il a tenus. Mais il y a un très grand nombre d'engagements qui avaient été pris, y compris sur les questions sociétales. Parce que moi, c'était personnellement plutôt là que je l'attendais que sur les questions économiques. Mais par exemple, le droit de vote des étrangers. On attend toujours le droit de vote des étrangers non communautaires aux élections locales. Et là, en plus, il y a une réforme constitutionnelle. C'était l'occasion, éventuellement, d'essayer de le mettre. Alors, on sait que la droite ne l'aurait pas voté, mais pourquoi ne pas l'avoir tenté ? C'était Bertrand Delanoë qui disait au début de mandat, sur la question du droit de vote des étrangers, on a le droit d'échouer, mais on n'a pas le droit de ne pas essayer. Moi, je suis assez d'accord avec ça. On aurait vu, effectivement, ils n'avaient pas la majorité de 3/5 pour le faire passer. Ça, c'est évident aujourd'hui quand on voit la position de la droite et de l'extrême droite. Mais, pour autant, je pense qu'il fallait le tenter. Le contrôle d'eau faciès, il s'était engagé là-dessus. Il n'a pas fait. La fin de vie, ils ont sorti une loi mi-figue mi-raisin qui ne va pas assez loin. Tout un tas de sujets sur les questions qui ne coûtent rien, en plus. Ni politiquement, parce que c'était voulu par son camp, ni économiquement, parce qu'il n'y a pas d'impact budgétaire, et il ne les a pas fait. La PMA, la reconnaissance des enfants nés par GPA, etc. Enfin, tous ces sujets sur les questions sociétales qui n'ont pas avancé du tout. D'accord. Donc,
Et même, tu parlais du mariage pour tous. Moi, je me souviens, d'ailleurs, on s'y était croisés à cette manifestation où on a été même oublié, quand même, on est descendu dans la rue, même pour le mariage pour tous. C'était au moment, si je me souviens bien,
sa sortie devant les maires de France, voilà, sur la liberté de conscience.
Oui. Voilà. Et qui a donc a permis s'engouffrer sur un débat et finalement les maires ont pu donc prendre la parole en disant moi, liberté de conscience, c'est important, etc. Et donc les associations, les gays lesbiennes de tout le pays, on est redescendu dans la rue pour quand même rappeler l'engagement du président de la République.
Moi, je me rappelle surtout effectivement du communiqué d'HES, dès que le mariage pour tous était arrivé un peu sur la table, où ils avaient parlé d'engagement 15 et demi. Maintenant, il a fait que la moitié du chemin. Il n'y a pas la PMA, il n'y a pas la reconnaissance des enfants des plus. Il n'y a pas aujourd'hui un couple de femmes qui est marié, dont l'une a fait un enfant par PMA. Elles peuvent avoir jusqu'à 3 livrets de famille. Si chacune des mères a un enfant né par PMA, elles ont chacune leur livret de famille avec elles et leur enfant biologique, leur livret de famille de femmes mariées, où les enfants ne figurent pas. Pour faire figurer les enfants sur le livret de famille, la compagne va devoir adopter l'enfant de la compagne. Dans un couple hétéro, ça se passe pas comme ça. Quand il y a un enfant qui est conçu dans le cadre du couple, même si on n'a pas la preuve que le père est bien le père biologique, l'enfant
même
est bien
le fils. Voilà.
C'est une reconnaissance préalable de parentalité. Mmh. Elle aurait dû être intégrée aussi pour les couples homosexuels. Donc on se retrouve effectivement avec non pas un mariage pour tous, mais vraiment un mariage homosexuel avec des droits inférieurs au mariage qui est aujourd'hui le mariage.
C'est ce que dénonçait Jacques Toubon, notamment devant une commission au Sénat, en disant que la loi telle qu'elle était faite, donc créer une discrimination pour les femmes, notamment en fonction de leur orientation sexuelle, ni plus ni moins. Une nouvelle discrimination, une nouvelle inégalité. Il n'est pas très républicain. Bon, alors, une dernière chose, puis après on va écouter une petite chanson.
Et puis aussi, toujours, je veux revenir là-dessus, aussi la question sur le droit des trans.
Oui, qui n'a toujours pas avancé plus. Il y a eu quelques propositions de loi qui sont venues des députés, d'ailleurs, pas du gouvernement. Il y a eu 2 députés, notamment du Rhône, qui avaient commencé à travailler sur le sujet, qui n'ont pas fait des propositions fracassantes, qui ont plutôt suscité la résistance des associations. On espère qu'ils vont retravailler leur sujet et qu'ils vont pouvoir présenter un projet vraiment progressiste à l'Assemblée nationale, parce qu'il faut rappeler quand même la réalité aujourd'hui, c'est qu'une personne trans en France qui veut avoir ses papiers d'identité correspondant au sexe dans lequel elle vit, à l'obligation d'une stérilisation par la loi. C'est-à-dire, si elle veut ses papiers d'identité, elle doit être stérilisée. Ce qui est quand même une barbarie. C'est reconnu notamment par le Conseil de l'Europe que la France a validé. La directive 1728 du Conseil de l'Europe qui dit que le changement d'état civil doit être simplifié, ça doit se faire par simple déclaration à la visée d'état civil, sans passer par des procédures chirurgicales et notamment de stérilisation qui sont une barbarie, c'est une torture. On n'a pas à obliger, selon si des gens veulent se faire opérer, bah, qu'ils le fassent, mais si elle n'en a pas envie, on n'a pas à les obliger à ça.
Alors, un dernier petit point que je voulais évoquer avec toi. Après, on reviendra après la chanson. Après la chanson, on parlera de Christiane Taubira. Mais je voulais justement, on parlait un peu de la droitisation de la société française. Enfin, on n'en parlait pas, mais il semblerait qu'il y a globalement une droitisation de la société française, y compris au sein du gouvernement actuel, qui normalement est un gouvernement de gauche. Donc, comme tu le rappelais aussi d'ailleurs, sur certains points, même sociétaux. Alors, donc du coup, qu'est-ce que tu penses ? Alors, il y a un sondage qui tourne sur les réseaux sociaux, que le Figaro s'est empressé de relayer, évidemment, qui indique que, donc selon ce sondage, je vais retrouver les chiffres, donc 30, un tiers des couples de même sexe qui ont donc bénéficié
couple
de
la nouvelle loi,
couples mariés, voilà, qui ont bénéficié donc de la loi Taubira, de la loi du mariage pour tous, ont voté FN, déclarent avoir voté FN selon ce sondage. Alors à noter, ma petite Lolo, que ce sont beaucoup plus des couples d'hommes que des couples de femmes.
D'accord. Je suis rassurée.
T'es rassurée ? 38,6% sont des couples masculins et 26% seulement, dirais-je, sont des couples de femmes. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, le fait que... Alors, il n'y a pas de reconnaissance.
Il n'y a même pas que ce chiffre-là, moi, qui me choque. C'est le total de ceux qui ont voté pour les partis qui se sont opposés au mariage pour tous.
Ouais.
Il y a le vote du Front National, qui est effectivement déjà très élevé. Et c'est le premier parti pour lequel ils ont voté au niveau des élections régionales. Mais c'est plus de 62% des couples mariés homosexuels qui ont voté pour des partis qui se sont opposés au mariage pour tous. Donc ça, moi, j'ai vraiment du mal à le comprendre. Titre personnel, qu'on puisse voter pour des partis qui ont des positions hostiles, un droit même dont ils ont eux-mêmes bénéficié, s'ils n'avaient pas pu, ils n'auraient pas pu se marier si ça avait été la droite ou le Front National qui était au pouvoir. Bon, après, il faut recadrer aussi, c'était les élections régionales, c'était pas des élections nationales, donc la question du mariage ne se posait pas en tant que telle. Pour autant, c'est vrai que c'est surprenant. Après, il y a une réalité, effectivement, et on en a fait un débat avec SOS Racisme avant la quinzaine des cultures, sur ce moment, effectivement, cette montée du vote Front National chez les LGBT. Ça, c'est vraiment une vraie question qu'on doit se poser en tant que militant et en tant que citoyen. C'est vrai que globalement, quand on regarde un petit peu les statistiques, les homosexuels, par le passé, votaient très peu Front National. Beaucoup moins, en tout cas, que le français moyen.
Ça semblait même antinomique.
Ça semblait antinomique. Mais il y a toujours eu des homosexuels d'extrême droite. Je veux dire,
Ernst Röhm.
Ernst Röhm,
on en revient toujours à lui. On a atteint le point Goldwyn, là.
Ou en France, celui qu'on avait appelé Gestapette. Ouais. Voilà, ça a toujours existé.
Ça, c'était qui la Gestapette ? C'était Laval,
c'était,
non ? C'était pas Laval ?
Je sais plus, mais je me rappelle juste de Gestapette, mais je sais plus à qui c'était, ce sobriquet avait été attribué, mais qui était pareil.
C'est mignon.
Oui. Après, voilà. Mais donc ça a toujours existé. Par contre, effectivement, c'était plutôt des gens qui votaient extrême droite malgré leur homosexualité. C'est-à-dire qu'ils considéraient que les questions qui étaient portées par le Front National ou par l'extrême droite étaient plus importantes que la question de leur orientation sexuelle et des droits afférents. Aujourd'hui, on est dans une situation qui est différente, où des gens votent Front National non pas malgré leur homosexualité, mais à cause de leur homosexualité, qui revendiquent leur homosexualité comme motif de voter pour le Front National, sous le discours qui était celui de Marine Le Pen, de dire « dans certains quartiers, il n'est pas bon être une femme ou un homosexuel », sous-entendu « les musulmans sont forcément sont des homophobes, et c'est eux qui vous tabassent, donc moi je vais vous régler le problème en virant tous ces musulmans du pays ». Et c'est ce discours-là qui, à mon avis, fonctionne chez une partie des LGBT. Et ça, c'est problématique, parce qu'effectivement, moi, je ne comprends pas comment on peut, quand on est victime de discrimination, être soi-même favorable à une forme de discrimination.
Oui, d'autant plus que le FN, d'après ce que j'ai compris, s'il était au pouvoir... Et Dieu
elle abrogerait la loi de
mieux ça, elle abrogerait la loi du mariage pour tous. Enfin, quoi.
En tout cas, elle essaierait.
Elle essaierait.
Parce que non, juridiquement, déjà, ça serait très compliqué.
Déjà, Marion Maréchal Le Pen qui disait pendant les régionales en PACA que si elle était élue, elle supprimerait les subventions aux associations LGBT. Déjà, rien que ça. En tant que comment on peut donner sa voix à quelqu'un qui dit ça?
Peut-être parce qu'ils n'ont pas conscience du poids des associations, justement, dans le rapport avec le politique. Les associations sont, je veux dire, incontournables. Sans les associations, certainement peu de choses auraient avancé.
Sans les associations, il n'y aurait pas eu grand-chose. Je veux dire, je pense que, notamment, on va y revenir aussi à ce qui était l'origine aussi du mouvement LGBT, ça a été quand même la lutte contre le sida, qui a été l'un des moteurs... du mouvement LGBT au départ, en tout cas du mouvement gay, parce que le mouvement lesbien a eu un peu de retard à l'allumage, parce qu'ils se sont d'abord battus dans un combat féministe avant de se battre vraiment dans un combat homosexuel lesbien. C'est plutôt une nouveauté, entre guillemets. C'est un mouvement qui est arrivé un peu plus tardivement, mais c'est vraiment un mouvement gay au départ. Et c'est d'ailleurs, on retrouve dans la plupart des associations LGBT, malheureusement, très majoritairement des garçons à leur tête. La LGP était un petit peu une exception avec une présidente pendant plusieurs années. Mais c'est vrai que c'est relativement rare dans le monde LGBT. Mais qui était d'abord, effectivement, un combat qui a été mené parce qu'il y avait l'épidémie de sida et qu'à un moment donné, c'était le premier public qui en crevait et qu'à un moment donné, il a fallu se mobiliser pour que les pouvoirs publics agissent sur cette question parce qu'effectivement, ça n'intéressait pas sans doute pas de politique, de s'occuper des PD et des toxicos, puisque c'était principalement les deux populations qui étaient touchées par cette maladie. Donc il y avait eu effectivement une mobilisation associative à l'époque, notamment d'ACT UP, notamment ou de AID, pour faire bouger les choses, faire bouger les lignes. D'ailleurs, le PACS, parce que le PACS a été voté, c'était aussi dans le cadre de cette question-là. C'était parce qu'il y avait des couples dont le compagnon mourait du VIH et la famille récupérait l'appartement, foutait la porte. Le compagnon avait passé toute sa vie avec la personne, mais comme c'était pas lui qui était sur le bail, il n'avait aucun droit reconnu, etc. Et c'était ça aussi l'origine de la revendication du PACS.
Apparemment, les LGBT n'échappent pas à très commun l'humanité. Certains ont la mémoire courte, voilà, on dira tout simplement. Bon, en attendant, ma petite Lolo, comment te dire adieu? Non, c'est pas un message subliminal.
J'espère.
J'ai décidé de passer des choses un peu kitsch, mais pas Françoise Hardy, c'est pas kitsch.
C'est Jimmy Somerville.
Non, c'est Françoise Hardy, la version de Françoise
Hardy. Ah, c'est la version de Françoise Hardy.
Ouais.
D'accord.
Moi, j'aime beaucoup Françoise Hardy. Je la trouve belle, intelligente.
Ah, oui.
Enfin bon.
Sous aucun prétexte. Silex, vite de profil, ton cœur de pyrex, résiste au feu. Je suis bien perplexe, je ne peux me résoudre aux adieux. Je sais bien qu'un ex, amour n'a pas de chance, ou si peu. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux. Sous aucun prétexte, je ne veux devant toi sur ex poser mes yeux. Derrière un Kleenex, j'en serai mieux. Comment te dire adieu? Comment te dire adieu? Tu as mis à l'index nos nuits blanches, nos matins gris-bleus. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux. Sous aucun prétexte, je ne veux devant toi sur ex poser mes yeux. Derrière un Kleenex, je serai mieux. Comment te dire adieu?
la seule émission LGBT sur Lyon et sa région. Chaque mercredi, de 20h à 21h, sur Radio Pluriel.
Nous voici de retour dans le studio de Pluriel Gay avec Olivier Borel de la LGP et ma petite Lolo à mes côtés pour m'accompagner et Boris, seul face à son destin.
Seul et abandonné.
Seul et abandonné. Nous saluons Bernard, si nous écoute.
Oui, on lui fait
bon rétablissement.
Voilà.
Alors, donc, on va parler maintenant de Christiane Taubira, parce qu'il faut évidemment en parler, puisque son actualité brûlante, elle est partie. Elle est partie.
Tout à fait.
Finalement, elle est partie.
Bon.
Bah, tu vois, ça reboucle avec ce qu'on disait tout à l'heure sur les politiques qui, pour certains, sont dans la posture et d'autres dans la conviction. Alors, je peux me tromper, hein, mais j'ai vraiment le sentiment que Christiane Taubira, justement, est une femme de conviction. Et que c'est pour ça aussi qu'elle est partie de ce gouvernement sur cette question de la déchéance de nationalité. Elle en a fait un bouquin, je ne l'ai pas lu, mais je pense que je vais l'acheter, je vais le lire. Et je pense qu'effectivement, oui, c'est une femme de conviction, qui ne l'a jamais cachée. D'ailleurs, plusieurs fois, elle a pris des positions contraires à celles du gouvernement alors qu'elle était ministre, contrairement à l'adage qui veut que quand on est ministre, on ferme sa gueule ou on démissionne. Mmh. Donc moi, je pense que c'est une femme de conviction. Elle a démissionné. Mmh. Alors je ne peux pas dire que je me réjouisse. Elle est démissionnée, parce que plutôt quelqu'un que j'apprécie à titre personnel. Et puis effectivement, elle a été quand même la voix pro-mariage pour tous à l'Assemblée. Après, je comprends qu'elle parte. Je pense qu'elle a choisi le bon moment pour le faire. Parce qu'effectivement, je pense que cette déchéance de nationalité, c'est juste une énorme connerie de Hollande. Qu'effectivement, là, ça, il voulait l'unité nationale, il amène à la division nationale, y compris au sein de son propre camp, ce qui est quand même particulièrement dommage.
Mais est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop autour de Christiane Taubira ? Est-ce qu'on la place pas un peu sur un piédestal ? On la considère comme une sainte parce qu'elle est rebelle, parce que blabla. Est-ce que finalement, c'est pas juste de la stratégie ?
C'est pas un peu exagéré,
oui. Oui, un peu exagéré.
En considérant, par exemple, ne serait-ce qu'on évoquait en début d'émission, où la loi Taubira, finalement, n'a pas abouti complètement.
Ah oui, non, mais elle aurait pu faire plus. Voilà. Ça exempte de pas de lui faire des critiques. Et je ne suis pas le dernier à critiquer la loi qui porte son nom, la loi sur le mariage pour tous, la loi Taubira.
Au fond, le problème de la filiation n'est pas résolu.
Tout à fait.
On l'a bien vu.
Tout à fait. Mais en même temps, même après le vote de la loi, elle a continué à dire qu'elle était favorable à la GPA, à ce qu'on continue d'examiner cette question. Par contre, il était clair, et ça, on en avait bien conscience tous, et malheureusement, ça s'est confirmé, que si c'était pas intégré dans le projet de loi au départ, ça serait jamais remis sur la table, sur le mandat. Ça, c'était évident qu'ils allaient pas se reprendre une deuxième fois une vague de manifestations, un truc sur la GPA, et qu'il fallait absolument le faire passer dans le projet de loi initial. Et là-dessus, j'ai peut-être un petit regret.
Mais la PMA est passée à la trappe, ni
oui,
plus ni
tout
moins.
À fait. Mmh. Ah oui, mais tout à fait. Et je pense que...
Alors, contrairement peut-être aux convictions de Christiane Taubira, mais elle était quand même cadrée dans son action, je veux dire, par les gens qui l'entouraient, quoi. Elle n'a pas eu une marge de manœuvre.
Ah oui, non, mais je pense qu'effectivement, elle était... Manuel Valls... En plus, pour le coup, là, j'en veux plus particulièrement à Manuel Valls, parce que si on regarde ses prises de position...
Pourquoi
avant...
Parce que c'est un homme de droite, tout simplement.
Non, mais quand on regarde ses prises de position avant qu'il soit Premier ministre... au moment des primaires socialistes, il était favorable à la PMA et même à la GPA, alors que c'était une position complètement minoritaire au sein du Parti socialiste, parce que sur la GPA, bon, quelques-uns sont pour la reconnaissance des enfants nés par GPA à l'étranger, mais ils vont pas plus loin. Il y en a très très peu qui étaient favorables à une légalisation de la GPA. Manuel Valls faisait partie de ceux-là. Et lui, il a complètement abandonné ses convictions-là à partir du moment où il a été Premier ministre. Alors que Christiane Taubira, elle a continué à quand même essayer de faire avancer la question de la GPA. Bon, elle n'était pas manifestement accompagnée là-dessus. Après, on peut se poser la question, effectivement, de sa sincérité quand elle disait qu'elle était favorable à la PMA, savoir si elle voulait vraiment le faire ou si c'était juste des effets d'annonce. Ça, je pense que personne, malheureusement, n'aura jamais la réponse. Mais au moins, elle avait le mérite de continuer à vouloir poser le sujet sur la table, alors que, clairement, le président avait dit « fermez le banc, la PMA est abandonnée ».
En même temps, on dira que ce n'est pas la première promesse politique qui a été abandonnée après les élections, ça, c'est sûr. Par contre, Christiane Taubira aussi, bon, alors, comme le disait Laurent, ça a été un peu érigé en passionnariat de la cause LGBT, mais l'est-elle vraiment ? Parce que la question que je me suis posée, et qu'on s'est tous posée, c'est que Christiane Taubira a été un peu envoyée au charbon, comme si les rôles étaient un peu distribués dans le gouvernement. Je comparais avec Simone Veil, qui est une femme de conviction. Moi, je suis... Pour moi, Simone Veil, j'ai la même admiration que toi, tu peux avoir pour.
Ah, mais j'ai beaucoup d'admiration pour Simone Veil, voilà. Même si sur la fin, elle m'a beaucoup déçu. Sur la position qu'elle a prise.
Oui, oui, non, mais bon, il paraît qu'elle est pas bien. Non, voilà. Que certains auraient abusé de sa faiblesse. Elle est quand même assez âgée.
Oui, tout à fait.
Mais je veux dire, Christiane Taubira, à l'époque, on avait dit Simone Veil pour l'avortement. Bon, on lui avait attribué l'avortement. C'est elle qui allait porter, qui était quand même une femme de droite, Simone Veil. Hein. Oui. Bon, Christiane Taubira, elle, on a dit aussi, bon, bah, c'est à elle qu'on a remis le paquet. Mariage pour tous, parce qu'on savait qu'il y avait quelqu'un qui pouvait le porter à l'Assemblée, en plus qu'elle allait avoir de grands effets rhétoriques, etc., ce qui a bien marché.
Tout à fait.
Mais donc, justement, est-ce que ces attributions font que... Est-ce que c'est Christiane Taubira, s'est-elle vraiment battue à fond pour le mariage pour tous, justement? Était-elle vraiment elle-même convaincue?
Moi, je pense
c'est juste
oui.
un rôle qu'on lui a dévolu et puis elle a accepté, quoi?
Non, moi, je pense qu'elle était sincère sur cette question... Tout comme Erwan Binet, que j'ai eu l'occasion de rencontrer au moment des débats, on était venu à sa permanence parlementaire, on discutait de nombreuses fois. J'ai assisté au débat qu'il avait organisé à Lyon, où d'ailleurs, à la sortie du débat, on était attendu par les sympathiques militants du GUD avec leur batte de baseball.
Charmant.
Mais je pense que ça, c'est vraiment des gens de conviction, que ce soit Erwan Binet, qui était rapporteur du projet de loi, que ce soit Christiane Taubira, que ce soit même Dominique Bertinotti, ministre de la Famille. Je pense qu'ils étaient vraiment convaincus sur la question. Je pense aussi à d'autres personnes au gouvernement, comme Najat Vallaud-Belkacem, qui, lorsqu'on a fait la manifestation à Paris, la grande manifestation nationale à Paris sur le mariage pour tous, elle a invité les Lyonnais à son ministère. Donc la délégation lyonnaise, on est passé à son ministère, on a déjeuné, on a eu discussion un peu à bâton rompu, où elle a elle-même reconnu d'ailleurs que la loi était mal fichue, qu'elle avait été trop vite préparée et qu'elle n'était pas suffisamment réfléchie, qu'il manquait tout un tas de choses dedans. Elle a elle-même reconnu que voilà, ça avait été ni fait ni à faire comme projet. Mais effectivement, au moins, il était là et puis ils sont quand même battus pour le faire. Et puis, au contraire du PACS, moi j'ai un souvenir aussi du vote du PACS. Si vous vous souvenez, le premier vote du PACS a été un échec, puisque les députés socialistes ont préféré aller à la pêche qu'être présents à l'Assemblée pour voter ce PACS, alors que là, les ministres, on l'a su par quelques sources, organisaient des repas le soir de façon à ce que les députés restent sur Paris pour qu'ils soient bien là présents au moment d'aller voter et qu'ils rentrent pas dans leur circonscription pour dire bon, je m'en lave les mains, les autres vont se déberner. Non, non, ils ont vraiment joué le jeu pour que le vote se passe le mieux possible à l'Assemblée et pas reproduire sur le mariage pour tous ce qui s'était passé sur le PACS. Bon, après, effectivement, on peut leur reprocher, je pardonne pas non plus à François Hollande de pas être allé au bout du chemin sur le mariage pour tous, d'avoir fait ce mariage à moitié, de pas avoir cette GPA, de pas avoir cette reconnaissance de parentalité, de pas être allé au bout sur la GPA alors qu'il y a une décision de la Cour européenne des droits de l'homme qui condamne la France pour la non-retranscription des états civils des enfants nés de GPA. Et quand t'as un premier ministre qui est capable de dire on a été condamné par la Cour européenne des droits de l'homme, mais on n'appliquera pas le jugement de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est juste honteux. C'est honteux.
Alors, on va me dire à des choses encore plus désagréables maintenant. Tu n'es pas sans savoir que les associations LGBT, notamment au moment de la présidentielle, ont été, entre guillemets, accusées, on dira, de faire campagne pour le PS, en fait, ni plus ni moins. Plusieurs choses pouvaient nous laisser penser, c'est sûr, pouvaient le laisser penser. Donc la LGP elle-même n'a pas échappé à cette critique, ça concernait surtout l'Interpride, mais bon, la LGP de Lyon n'a peut-être pas échappé à cette critique, peut-être un peu moins que l'Interpride, je ne sais pas, mais il est certain que beaucoup ont dit que le demi-échec donc, de cette loi était dû à cette proximité dénoncée, entre guillemets, par certains. Alors, est-ce que les associations n'ont pas été plus combatives, auraient dû être plus combatives et plus pugnaces à ce moment-là, face aux politiques, déjà? Et est-ce qu'on peut parler de phagocytage, puisqu'on a entendu parler de ça aussi, des associations par le Parti Socialiste, en disant, oui, mais les associations sont dirigées par des membres du Parti Socialiste ou des proches du Parti Socialiste, donc voilà.
Alors, je dirais pas ça. Je dirais que j'ai un regret, effectivement, et je me pose la question de savoir si on avait été plus pugnace, on aurait eu plus ou pas. On s'est vraiment posé la question, et moi, honnêtement, je me suis vraiment posé la question de savoir jusqu'où il fallait taper sur ce gouvernement pour obtenir ce qu'on voulait sur la loi. C'était difficile comme décision, non pas par... allégeance plus ou moins déguisée au Parti Socialiste. Moi, j'ai pas ma carte dans un parti, dans aucun parti, même si je suis plutôt sympathisant du Parti Socialiste. Je vais pas, enfin voilà, c'est mes convictions personnelles, je vais pas le cacher. Pour autant, je suis pas le dernier à critiquer ce Parti Socialiste quand il respecte pas ses valeurs et ses engagements. Donc là-dessus, j'ai aucun problème à taper dessus et ça me pose vraiment aucune difficulté. Par contre, effectivement, on s'est vraiment posé la question à un moment de savoir jusqu'où on pouvait aller taper sur au moment de la PMA, parce qu'il y avait une telle opposition sur le mariage pour tous, qu'on c'était risqué aussi de taper trop fort sur le gouvernement et de leur faire finalement se dire, bah finalement, comme on nous tape dessus des deux côtés, bah autant ne rien faire, quoi. On n'était pas sûr non plus d'aller jusqu'au bout des choses. Et de taper trop fort, c'était un risque aussi. De pousser le gouvernement à dire bah finalement, puisque même les homosexuels sont pas contents de ce qu'on fait, à quoi ça sert de se casser le cul? Et c'est une vraie question, une vraie interrogation. Je n'ai pas la réponse. Alors peut-être qu'on aurait dû taper plus fort. Et si on l'avait tapé plus fort, est-ce qu'on aurait obtenu plus? C'est une vraie question que je me pose, c'est une vraie remise en question, je ne sais pas. J'ai pas la réponse à cette question. Et moi, je me rappelle que pour le coup, l'association qui a tapé le plus fort sur le Parti Socialiste, j'ai rien à rappeler malgré tout, c'est justement HES, qui pour le coup, c'est des militants socialistes, pour la grande majorité. Et c'est quand même eux qui ont été les premiers et les plus violents dans leur attaque contre le Parti Socialiste là-dessus, en parlant d'engagement 15 et demi. Je pense qu'aucune association LGBT avait été tapée aussi fort que ça sur le Parti Socialiste. Alors après, oui, c'est une vraie question.
C'est vrai qu'il y a une incompréhension pour l'électorat, par exemple, on promet une loi, enfin on promet la PMA, notamment dans la loi, on l'abandonne, et puis on l'abandonne parce que, bah pourquoi on l'abandonne? Parce qu'il n'y avait pas assez de force de conviction, trop d'opposition, un manque de courage. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, moi je pense que faire de la politique, c'est aussi avoir du courage. Et je pense toujours à, on cite souvent l'abolition de la peine de mort, à une époque où la France était, et le serait d'ailleurs si on faisait un sondage, je pense que malheureusement il y aurait encore une majorité un peu supérieure à la moyenne, pour, en tout cas à l'époque, 60% des Français étaient pour la peine de mort. Et Mitterrand l'avait dit, et Badinter l'a fait dans les mois qui ont suivi. Alors pourquoi pas la même chose avec la PMA?
Bah, je pense que...
Personnellement,
mais
je pense qu'on
n'était
pas dans le même contexte, malheureusement. Et je pense qu'on a tous été aussi surpris de la force de nos opposants. On s'attendait pas à ce que ça passe comme une lettre à la poste.
On a même l'impression qu'au sein même du PS et de la gauche, ça divisait. La PMA, ça mettait tout le monde mal à l'aise, même dans la gauche, quoi.
Mais à chaque
personne
période...
Personne n'était convaincu de
ça. À chaque période électorale, que ce soit dans les années 70, dans les années 80, 90, il y a toujours eu des opposants super virulents. Simone Veil, elle a vécu...
Oui, mais il n'y avait pas des grandes manifestations de rue au moment de la loi sur l'IVG. Il y a eu les grandes manifestations de rue, on en a eu sur le PAX... Et on s'attendait tous, et je pense, en tout cas moi je m'attendais à ce que ce soit même moins important que sur le PACS, ou d'à peu près de la même importance, sauf qu'on a eu des manifestations qui étaient encore plus virulentes et plus massives que sur le PACS. Parce qu'il y a eu effectivement cette Frigide Barjot qui est un peu plus sexy qu'une Christine Boutin pour faire...
Qui est un peu plus quoi ?
Sexy qu'une Christine Boutin pour faire amener les gens dans la rue, parce qu'elle n'avait pas ce côté... Cateau coincé de Christine Boutin, et c'est un animal médiatique, Frigide Barjot, on ne peut pas lui ôter. Ça, c'était un animal médiatique qui a fasciné les médias, qui lui ont servi la soupe comme rarement on a servi la soupe à quelqu'un, et qui du coup a pu déverser son discours et convaincre, je pense, et amener dans la rue, je pense, des gens qui n'étaient pas forcément homophobes. Mais qui, effectivement, cette question les taraudait, et qu'il y a un certain nombre d'arguments qui étaient avancés, et puis surtout de contre-vérités qui étaient avancées par Frigide Barjot et la Manif pour tous, lorsqu'il disait « on va supprimer le mot de papa et de maman, on va commercialiser les enfants, etc. Enfin, » toutes ces espèces de fantasmes qui étaient amenés par Frigide Barjot, qui reposaient sur absolument rien. Et en face, effectivement, par contre, il n'y a pas eu beaucoup de défenseurs. Les voix fortes pour défendre le mariage pour tous, en face, il n'y a pas eu grand monde. Il y a eu, effectivement, Christiane Taubira à l'Assemblée, mais on peut aussi lui faire la critique qu'en dehors de l'Assemblée, elle n'a pas forcément non plus beaucoup parlé dans les médias pour défendre le mariage pour tous. Il y a eu quelques personnes comme Nadja Vallaud-Belkacem, comme l'ancien... l'ancien papa du PAX, enfin le papa du PAX, qui est aujourd'hui qui est sénateur, j'ai oublié son nom, mon Dieu, je ne connais que lui.
Comment s'appelle-t-il ? C'est pas Jean-Pierre Michel, hein, non.
Si,
pas...
c'est ça, Jean-Pierre Michel, qui a été du coup en procès d'ailleurs avec la Manif pour tous.
Jean-Pierre Michel, oui, parce que oui, lui, il est porteur des droits LGBT.
Tout à fait. C'est, depuis c'est des lui siècles. Qui avait amené le papa du PACS, hein, qui était le rapporteur du projet de loi sur le PACS.
Jean-Pierre Michel,
qui était rapporteur du mariage pour tous au Sénat, qui a refusé d'auditionner la Manif pour tous en disant que c'était la pire des homophobies, parce que c'était une homophobie qui ne s'assumait pas autant qu'homophobe. Voilà. Donc il y a eu quelques voix comme ça, mais globalement, c'est vrai que le mouvement d'opposition était quand même particulièrement virulent, et en face, on n'a pas été structuré, on ne s'attendait pas à ça. Être capable d'avoir 1 million d'euros, de dépenser 1 million d'euros par manifestation. Si on avait eu, nous les partisans, 1 million d'euros en tout pour nos manifestations, je pense que déjà on aurait fait autre chose qu'une manifestation si on avait eu 1 million d'euros. Et eux, c'était pas 1 million d'euros en tout, c'est 1 million d'euros par grand manifestation qu'ils ont dépensé pour amener au maximum 1 million de personnes dans les rues. Nous, si on fait la somme de l'ensemble des budgets des associations LGBT sur une année, mais on n'est même pas à 10% de ça.
Mais malgré tout, je pense que le problème vient uniquement du gouvernement. Oui. Pour moi, Brigitte Bardot et compagnie, c'est de la poudre aux yeux. Quand on interroge, quand on interrogeait à l'époque, il y avait des sondages ou des gens autour de nous, on n'avait pas besoin d'écouter juste les sondages. Quelqu'un qui se penche autour de sa famille, qui dit bah, toi, qu'est-ce que t'en penses ? Il y avait un sondage, je crois que c'était 63% des Français qui étaient pour le mariage pour tous. C'était dans ces eaux-là à peu près. Ça n'a jamais trop bougé. Bon, bah, c'est très bien. C'est une majorité assez large, on va
assez
dire.
Large, tout à fait.
Le truc, c'est qu'on était à une époque où la plupart des Français s'en fichaient du mariage pour tous, pas parce qu'ils étaient homophobes ou qu'ils étaient contre, parce que pour eux, il y avait d'autres priorités. Il y avait des
principale.
Questions de chômage, d'insécurité, etc. Et ils disaient, mais la loi, ils ont qu'à la passer. On s'en fiche. Les homos, ils peuvent se marier comme n'importe qui. Le problème n'est pas là. Il y a d'autres choses à régler plutôt que de perdre des mois et des mois avec cette loi.
Ben, c'est ça aussi.
Le problème,
la critique...
c'est pourquoi le gouvernement n'a pas fait comme, par exemple, en Espagne, où le gouvernement espagnol s'est dit... L'Espagne est un pays beaucoup plus traditionnaliste et catholique que le nôtre.
Tout à fait.
Pourquoi le gouvernement espagnol, au bout d'un moment, ils se sont dit « On a des citoyens qui méritent les mêmes droits que tout le monde, on ne va pas perdre de temps avec ça, la loi, elle va être signée, point. » Elle a été signée.
Oui, non, mais là-dessus, je suis complètement d'accord avec toi. Il y a l'erreur principale du
maintenant,
gouvernement.
Maintenant, les médias, Brigitte Bardot et compagnie...
Ça a été de laisser trop de temps sur ce débat. Voilà. Le débat, il a quasiment duré un an.
Oui, 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 oui.
C'était beaucoup trop long. Il fallait aller beaucoup plus rapidement sur la question, d'autant qu'en plus... Moi, je comprends pas non plus que le projet ait été aussi mal ficelé, parce qu'il y a déjà eu des propositions de loi par les députés socialistes et écologistes, et même Front de Gauche aussi, alors qu'ils étaient minoritaires à l'Assemblée nationale. Donc ils avaient déjà des projets qui étaient plutôt pas mal pensés à l'époque. Ils auraient tout à fait pu ressortir ces projets-là, les passer, retoiletter un petit peu le texte pour vérifier qu'il y avait bien tout ce qu'il fallait dans le texte. Ils auraient pu aller beaucoup plus vite. Pourquoi, effectivement, faire durer aussi longtemps ? Je pense que ça les arrangeait aussi pour d'autres questions.
Oui.
Et que là-dessus, par contre, c'était effectivement une connerie et qu'il fallait aller beaucoup plus rapidement et que les débats ont duré beaucoup trop longtemps. Ils s'en sont rendus compte sur la deuxième partie. Quand ils ont fait la deuxième lecture, a été beaucoup plus rapide parce que là, effectivement, ils se sont rendus compte qu'il ne fallait pas que ça dure encore des mois parce que là, ça commençait à devenir vraiment problématique. Parce qu'effectivement, s'ils avaient été beaucoup plus vite, il n'y aurait pas pu y avoir non plus ces énormes manifestations de rue, de la manif pour tous. Parce que quand on a vu... Mais après, on s'est aussi un peu fait avoir, parce que quand on a vu les premières manifestations, là, des oiseaux, un papa, une maman, machin, on s'est dit, bon, bah, si c'est ça l'opposition, c'est bon, ça va être tranquille, finger in the nose, on n'a pas d'opposition en face. Bah, quand on s'est pris la première manif pour tous dans les dents, là, je pense que ça a un petit peu aussi changé les choses. Et on s'est fait, je pense qu'on s'est un peu fait piéger aussi par les opposants qui ont été plus malins que nous, faut le reconnaître.
Plus malins et aussi peut-être plus proches du gouvernement. Le problème, c'est que
plus proche du gouvernement,
au niveau du
pas,
pouvoir, on va pas se leurrer. Les gens.
Il y avait quelques.
Il y a beaucoup de personnes qui appartiennent à la Manif pour tous, qui viennent de grandes familles françaises traditionnalistes, qui ont un pied dans le pouvoir. Qui sont proches des arcanes du pouvoir. Ça, on va pas le mentir.
Non, mais on sait que c'était le secrétaire général de l'Élysée qui était plutôt opposé au mariage pour tous.
Mais ça, c'était la grosse erreur du gouvernement, et c'est là, ça a été une de leurs premières erreurs, être un gouvernement socialiste et ne pas écouter son peuple.
Ah, mais
et ce dont a besoin ses citoyens. Préférer courber le dos devant... une Brigitte Bardot, une Christine Boutin, une Ludovine de la Rochère.
Mais ça, c'est malheureusement, c'est le gros défaut de François Hollande. Et c'est moi, en tout cas, c'est pour ça que c'était pas pour lui que j'avais voté aux primaires de gauche, parce que François Hollande peut... était un, je pense, c'était plutôt un bon président de parti, notamment pour le Parti socialiste, parce que justement, c'est le genre de personne à vouloir faire le dos rond, à mettre tout le monde d'accord et à vouloir maintenir l'unité du parti malgré les dissensions et on sait que les voix sont très souvent dissonantes à gauche et au Parti socialiste en particulier. Sauf qu'à un moment donné, quand t'es président de la République, il faut trancher. Et tu peux pas être dans le mi-figue, mi-raisin. Et c'est ça, à mon avis, le gros défaut de François Hollande, c'est de toujours vouloir essayer de ménager la chèvre et le chou. On l'a vu d'ailleurs aussi sur la loi sur l'euthanasie, qui est un mi-figue, mi-raisin, qui ne satisfait ni les uns ni les autres. Et sur le mariage pour tous, il a essayé de faire pareil, de faire le mariage pour tous, pour faire plaisir aux homos, et en même temps, de faire... un petit sacrifice pour les autres en disant bon, on fera pas la PMA, comme ça vous serez contents aussi, sauf qu'en faisant ça, il ne rend ni les uns ni les autres satisfaits. Et quand t'es président de la République, à un moment donné, il faut trancher. Et s'il avait eu le courage politique, effectivement, de trancher clairement la question, comme tu dis, comme Zapatero, de dire très clairement, de toute façon, la loi, elle se fera. Vous soyez d'accord ou pas, de toute façon, une majorité des Français qui nous sont suivis, comme a dit Badinter à l'Assemblée nationale quand il défendait l'abolition de la peine de mort. Les Français, la question a été posée aux Français au moment où on a fait la campagne présidentielle et on a fait la campagne législative. C'était dans les programmes. Donc les Français ont validé, ont voté en toute conscience pour un président de la République, pour une majorité qui avait ça dans son programme. Donc on le fera, un point, c'est tout. Et ça, effectivement, oui, ça c'est un tort, notamment du président de la République. Je pense que c'est principalement là-dessus le président de la République qui est critiquable sur sa façon de gérer d'avoir géré les choses.
Alors malheureusement, l'heure tourne, il va falloir nous interrompre, nous souhaiter bien le bonsoir et la bonne nuit. Nous allons récupérer nos bougeoirs et monter dans nos chambres respectives avec notre bonnet de nuit. Donc je voulais dire, maintenant, pour conclure un petit peu, parlons un peu très rapidement, parce qu'on n'a plus que 3 minutes, la marche 2016. Donc, alors moi, la question que je me suis posée, deux questions. L'année dernière, la marche a été un franc succès, le parcours a été un peu critiqué, mais c'était pas de votre faute, vous l'avez un peu imposé le parcours, vous aviez demandé des quais de Saône déjà, du côté 5e à l'époque.
Oui, alors nous, ce qu'on voulait, l'objectif principal du changement d'itinéraire de l'an passé, c'était de pouvoir faire une boucle, qui pour nous est beaucoup plus pratique en termes d'organisation, parce que ça fait une seule équipe à un seul endroit pour faire à la fois gérer le village associatif de l'arrivée et en même temps gérer la mise en place des chars. Oui. Pour nous, c'est beaucoup plus pratique. Après, effectivement, il y avait notre idée de vouloir aller dans le 5e arrondissement pour dire qu'il n'y a pas de quartier interdit dans la République.
Mais on sait, le 5e a la réputation d'être le fief des identitaires à Lyon.
Donc on a entendu... dans un premier temps, ce que disait la préfecture, en disant « on n'autorise aucune manifestation sur le 5e arrondissement pour des raisons de sécurité ». Bon, ça nous pose quand même problème idéologiquement, parce que ça veut dire que c'est quand même un quartier où, du coup, on ne peut pas manifester parce qu'il y aurait des raisons de sécurité qui feraient que c'est pas possible. Ça nous pose quand même problème. Sauf qu'en plus, il y a derrière une manif de la Manif pour tous, devant le palais de justice, vous allez ça te poser, vous n'avez aucun problème. Donc quand c'est en accord avec la position des identitaires qui ont décidé de se faire de ce quartier leur quartier, en tout cas ils considéraient ça comme leur territoire, là ça pose pas de souci, on organise la manifestation. Donc là, effectivement, on n'est pas d'accord avec ça. Bon, malheureusement, cette année, on pourra pas refaire ce genre d'itinéraire, ni essayer de passer sur le 5e arrondissement, parce que en juin, il y aura malheureusement l'Euro 2016.
Et pourquoi et malheureusement la place
Et donc, mais attention, Olivier, tu parles à un fan de foot. Hein.
Bah oui, mais moi, j'aime pas le foot, et puis deux, ils vont nous faire chier, et on n'aura pas la possibilité d'avoir la place Bellecour. Puis s'il y a un écran géant sur la place Bellecour, on n'aura pas la possibilité d'arriver sur la place Bellecour.
Je sais que pour la Coupe
Donc, ça va nous poser de problèmes sur l'itinéraire, on va reprendre un ancien.
Mais il n'y a pas de. Comment dire on vous a pas demandé de reporter avant ou après le.
Non.
Voilà,
non, c'est juste que la place Bellecour sera pas
possible. Toujours les débordements des.
Bah après, il y a une autre chose qui peut rentrer en ligne de compte, parce qu'on. On est quand même un petit peu dans la situation, on ne sait pas ce qui va se passer là. C'est le prolongement de l'état d'urgence. Ouais. Mais après, je les vois mal quand même prolonger l'état d'urgence pendant l'Euro 2016. Ça risque d'être un petit peu antinomique d'avoir à la fois l'Euro 2016 et l'état d'urgence. Donc je ne me fais pas trop de soucis de l'état d'urgence au mois de juin, parce que j'imagine mal qu'il prolonge l'état d'urgence.
Donc peut-être le suspendre et le remettre après.
Voilà, donc. Voilà. Par contre, effectivement, la place Bellecour sera malheureusement pas utilisable, ce qui va nous compliquer un petit peu la tâche, puisque, souvenez-vous, il y a 2 ans, lorsqu'on n'a pas pu finir sur la place Bellecour pour d'autres raisons, parce que la place Bellecour était occupée par un autre événement, on avait fini sur les quais, il y avait tellement de monde, parce qu'aujourd'hui, la Gay Pride attire vraiment beaucoup de monde, beaucoup plus que par les années passées. On augmente quasiment de 1000 à 3000 par année. Le point d'arrivée sur les quais, on n'a pas pu s'arrêter là où on avait prévu. Les flics nous ont fait avancer de 500 mètres parce qu'ils n'arrivaient pas à contenir la foule sur les quais. Donc on risque d'avoir la même problématique cette année. Mais on va essayer de reculer, d'aller un peu plus loin sur les quais, d'aller presque jusqu'à la place Bellecour.
La date est fixée pour l'instant.
Normalement, c'est le troisième samedi du mois de juin, donc ça tombe pas le samedi 18 juin, sauf modification, mais a priori c'est ça.
Nous allons devoir finir l'émission. Merci Olivier d'être venu
merci
ce
à
soir,
vous.
Olivier merci. De la LGP. Merci Lolo
merci
d'avoir
nous avoir
accompagné. Merci Boris d'avoir assuré comme un roi à la régie. On voulait écouter Hervé Villard. Tu sais, je parlais de kitsch, mais on l'écoutera pas. Capri, c'est fini. Moi, j'aime bien Hervé Villard.
L'émission Gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.